Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, je vous salue, que vous soyez dans le monde. Je vous devine derrière votre radio, votre ordinateur, votre smartphone. Merci de votre fidélité. Nous sommes le samedi 27 juin. Nous allons faire un nouveau tour du monde. Nous allons partir pour les États-Unis, par exemple. Nous allons aller au Rwanda, en Afrique du Sud. Rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité africaine et vos messages après le flash. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONU, 70 ans presque jour pour jour après la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco. Une semaine d'actualité dont à podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Chloé Morel.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous venez de publier un livre original, Histoire des idées des Nations Unies. Il est publié chez l'Harmattan. C'est une manière positive de voir l'ONU. C'est rare.
Oui, tout à fait. J'ai voulu aborder l'histoire de l'ONU par cette perspective positive, parce que on critique souvent l'ONU en parlant de son inefficacité, mais j'ai voulu montrer qu'elle a, au fil de toutes ces 70 années, promu des notions souvent novatrices, comme celle de droits humains, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, jusqu'à celle de diversité culturelle, promue par l'UNESCO depuis 2005, etc.
Parce qu'il faut rappeler, Chloé Morel, que l'ONU, ce n'est pas simplement le Conseil de sécurité, c'est en gros, pour simplifier, une usine à faire du droit.
Oui, alors l'ONU, au fil des années, a fait tout un corpus normatif des tas de conventions, de recommandations, de déclarations qui sont très importantes, qui sont souvent très progressistes, comme celle sur les travailleurs migrants de 1990, qui est très avancée. Malheureusement, souvent, elles ont peu de force contraignante, mais c'est quand même une action très, très importante. Et à côté de ça, il y a toutes les agences spécialisées qui font, chacune dans leur domaine, un travail important, l'OIT pour le travail, l'OMS pour la santé, etc.
Alors, il y a aussi l'UNESCO, puisque nous sommes à Paris, pour en parler. Vous êtes aussi un organisme de l'ONU, une agence de l'ONU que vous avez étudiée. Vous êtes venu en parler il y a quelques années.
Oui, puisque j'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'UNESCO. J'ai étudié pendant ces 30 premières années et j'ai montré son action multiforme, à la fois d'éducation, de science, de culture, mais aujourd'hui surtout, on parle surtout de son action dans le domaine du patrimoine. C'est celle qui a le plus de visibilité et qui est importante.
Alors revenons d'abord, Chloé Morel, sur les révélations de Libération, de Mediapart et de Wikileaks sur les écoutes américaines de la NSA. Écoute des présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. Écoutez la réaction de Laurent Fabius mercredi.
Pas question qu'on accepte que les présidents de la République, trois présidents de la République successivement, soient écoutés, y compris dans leurs conversations privées. Ça, chacun peut le comprendre. Entre alliés, il doit y avoir une certaine confiance. Quand ce type de pratique se développe, ça porte atteinte à la confiance et c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux.
Sept jours dans le monde.
Alors l'actualité française, c'est aussi l'attentat hier dans l'Isère, on vous en parle dans nos journaux, on y reviendra tout à l'heure. Avant de vous retrouver, Chloé Morel, partons pour New York à l'occasion de ce 70e anniversaire de la signature de la charte de San Francisco qui a donné naissance donc à l'ONU, correspondance de Marie Bourreau.
Le général de Gaulle l'appelait le machin en signe de son dédain pour ce temple du multilatéralisme qui devait être le lieu où toutes les nations s'accordent pour préserver la paix mondiale. Mais après des échecs retentissants comme ce génocide que l'ONU n'a pas pu empêcher au Rwanda, ainsi que les massacres commis en Bosnie, l'efficacité de l'organisation est régulièrement remise en cause. Pourtant, en 70 ans, elle a connu des réussites. Elle agit sur de grandes causes sociétales comme les programmes de vaccination, la scolarisation, l'aide aux réfugiés, près de 11 millions de déplacés aujourd'hui, ou la lutte contre le réchauffement climatique. Mais sur le terrain de la sécurité, malgré 16 opérations de maintien de la paix, aujourd'hui épinglées par des scandales d'abus sexuels commis par des casques bleus, l'ONU semble bien impuissante à enrayer les conflits. Et puis, il y a bien sûr le chantier de sa réforme resté dans les placards et l'inaction du Conseil de sécurité sur le dossier syrien, totalement paralysé par l'opposition des Russes à une intervention. En 70 ans, l'ONU a vieilli sous le poids des conflits qui se multiplient. Sa survie dépend maintenant de sa capacité à s'adapter à un monde en pleine mutation.
Et je vous propose sur le site de RFI, à la page de l'émission, un article sur ces 70 ans avec une question: l'ONU, mythe ou réalité? Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'une spécialiste de l'ONU qui vient d'écrire Histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions, un livre publié chez L'Harmattan. Que répondre à ce que vous avez entendu? Nous avons déjà un auditeur qui nous écrit de Mopti au Mali. Il se demande, il s'appelle Taïrou, quelle est la cause réelle de la faiblesse de l'ONU dans la résolution des conflits mondiaux?
C'est vrai que le bilan pour les actions de maintien de la paix est mitigé. Il faut quand même dire qu'il y a eu plus de 60 opérations de maintien de la paix depuis la création de l'ONU et que plusieurs ont réussi. C'est vrai que dans les années 90, il y a eu beaucoup de discrédit avec les massacres en ex-Yougoslavie et l'échec avec le génocide du Rwanda. Mais depuis peu, depuis les années 90, l'ONU a développé un nouveau concept, pas seulement le maintien de la paix, peacekeeping, mais la consolidation de la paix, la construction de la paix, peace building, avec ce rapport Agenda pour la paix de Boutros Ghali en 1992. C'est l'idée qu'il faut construire la paix, pas seulement agir ponctuellement pour arrêter des combats, mais construire la paix, ça veut dire aussi organiser des élections dans des pays qui sortent de dictature, etc. Donc ça, c'est une action de longue haleine.
Alors l'ONU, Chloé Morel, n'est pas le gouvernement du monde, loin s'en faut, mais c'est quand même l'ONU qui a mis en avant cette notion, et vous y revenez dans le livre d'ailleurs, c'est le premier chapitre, cette notion de gouvernance mondiale.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'au début, lors de la création de l'ONU, il y avait des aspirations à ce qu'elle devienne un véritable gouvernement du monde, qu'elle crée une citoyenneté mondiale. C'était des aspirations pacifistes, dans l'idée d'éviter de nouvelles guerres, avec par exemple Julian Huxley, le premier directeur général de l'UNESCO. Et puis, ça s'est heurté à des réticences, notamment aux États-Unis ou ailleurs. Et peu à peu, cette notion de citoyenneté mondiale, de gouvernement du monde a été abandonnée au profit d'actions plus ciblées. Mais aujourd'hui, il y a l'émergence de la notion de gouvernance mondiale qui la remplace. Mais attention, ce n'est pas pareil. Et la notion de gouvernance mondiale qui a eu le vent en poupe depuis les années 90, elle sous-entend l'idée d'un recul des États, le recul du pouvoir des États au profit d'autres acteurs comme les entreprises, les ONG, la société civile, et il faut être vigilant parce que est-ce que c'est aussi démocratique que des États de donner du pouvoir à des entreprises, à la société civile dont on ne sait pas vraiment qui ils représentent?
Alors ce qui est intéressant à la lecture de votre livre, Chloé Morel, c'est qu'on s'aperçoit que l'ONU, encore une fois, ce n'est pas que le Conseil de sécurité, c'est une boîte à idées. On peut dire les choses comme ça, non?
Tout à fait, c'est une boîte à idées, puisque avec toutes ces agences spécialisées, chacune dans un domaine, l'ONU a donné beaucoup, a inventé beaucoup d'idées qui se sont ensuite répandues dans le langage courant et dans la société, comme l'idée de développement durable, créée en 1987 avec le rapport Brundtland, ou bien le nouvel ordre économique international, un slogan qui est apparu en 1974 et qui était porteur de beaucoup d'aspirations et qui peut même rester encore d'actualité aujourd'hui par ses idées fortes, ou encore l'idée de biens publics mondiaux, également d'actualité aujourd'hui. Donc effectivement, l'ONU est une boîte à outils pour beaucoup d'idées novatrices et pionnières. Et beaucoup de ces textes, comme le texte sur la Convention sur les travailleurs migrants, sont des textes très progressistes.
Sept jours dans le monde. Merci de votre fidélité, Chloé. Nous allons commencer et continuer notre voyage et partir pour la Grèce à l'heure des négociations entre l'Union européenne sur l'avenir financier et économique de ce pays. Partisans de l'euro et opposants ont manifesté à Athènes ces derniers jours. Envoyé spécial à Blajounaïdi, mardi.
Après la manifestation de la veille des partisans de Syriza contre l'austérité, la place du Parlement accueillait cette fois une foule moins identifiable politiquement. À l'image de Mélénée, les manifestants se disent avant tout pour le maintien du pays dans l'Union européenne.
Je veux soutenir une partie du gouvernement qui est pour l'Europe. Je ne suis pas pour un parti, mais pour que mon pays reste européen.
À part une affiche moquant le récent voyage du Premier ministre Tsipras à Moscou, oui à l'euro, non au rouble, aucun slogan anti-gouvernemental n'est entendu. Stavros, mécanicien au chômage technique depuis des mois, insiste sur l'urgence de la situation.
Bien sûr, les gouvernements précédents portent une responsabilité dans la situation. Ce n'est pas la faute du gouvernement actuel, mais c'est sa responsabilité de garder la Grèce dans l'Union européenne.
Périclès, jeune comédien resté un peu à l'écart de la foule, insiste.
Je veux vivre dans un pays européen où on partage les valeurs des autres pays de l'Union. J'ai grandi avec le rêve de l'Europe et je veux mourir en Europe.
Un cri du cœur à destination de Bruxelles où le sort de la Grèce se joue.
Et on vous parle bien sûr de la Grèce sur l'antenne ce matin. À suivre dans nos journaux. D'autres informations avec vous, Lauren Bess.
En Syrie, les combattants djihadistes du groupe État islamique ont dynamité deux mausolées dans la cité historique de Palmyre lundi. Selon le directeur des antiquités syriennes, l'une des tombes détruites est celle d'un descendant de la famille, du cousin du prophète. L'État islamique avait pris le contrôle de la majorité du territoire le 21 mai. Les ruines de Palmyre sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le groupe État islamique a également réussi à entrer de nouveau dans la ville de Kobané, 5 mois après en avoir été chassé. Le groupe est aussi entré dans la ville de Asaké, dont il tentait de s'emparer depuis 1 mois. Dès jeudi, de violents affrontements ont éclaté entre les djihadistes et les forces kurdes dans les deux villes, faisant des dizaines de morts.
Partons pour le Pakistan maintenant, Lauren Bess.
Plus de 1000 personnes y sont mortes de chaud cette semaine. La plupart d'entre eux sont décédés à Karachi, où les températures ont atteint 45 degrés. Le Premier ministre Nawaz Sharif a lancé l'état d'urgence et l'armée a été déployée pour aider la population. En Afghanistan, le siège du Parlement à Kaboul a été attaqué en pleine séance par des rebelles talibans lundi matin. L'assaut a commencé par l'explosion d'une voiture piégée devant les grilles du Parlement qui a fait 2 morts et 30 de blessés. Il s'est terminé 2 heures plus tard. Les assaillants ont été abattus et les parlementaires sont sains et saufs. Les talibans ont récemment lancé leur offensive de printemps, engageant combats et attaques dans tout le pays. Enfin, aux États-Unis, mercredi, l'auteur des attentats de Boston, Jokhar Tsarnaev, a été formellement condamné à mort. Pendant l'audience, chargé d'émotion après le témoignage des survivants, il s'est excusé auprès de ses victimes pour la première fois. Il a désormais 14 jours pour faire appel. Rappelons que les attentats du 15 avril 2013 avaient fait 3 morts et 264 blessés.
Nous allons rester aux États-Unis. Justement, Lorraine, Barack Obama était hier vendredi à Charleston pour prononcer l'éloge funèbre du révérend qui fait partie des 9 victimes de la tuerie il y a une semaine. Le débat sur le racisme fait rage aux États-Unis et le président américain lui-même y participe. Il a eu des propos tranchés ces derniers jours à la radio. Correspondance d'Anne-Marie Capomaccio, lundi.
L'Amérique est-elle raciste? La question est à nouveau en débat après la tuerie de Charleston, dans un pays où les plaies de l'esclavage et de la discrimination ne sont pas refermées. Certes, le langage entre guillemets politiquement correct aux États-Unis interdit de prononcer certains mots jugés diffamants, mais selon Barack Obama, ce langage châtié cache mal un racisme qui, je cite le président, reste dans l'ADN de ce pays.
Racism. We are not cured of.
Le racisme, nous n'en sommes pas sortis. Ce n'est pas parce qu'on est poli et qu'on ne dit pas nègre en public. Cela n'a rien à voir avec la réalité du racisme, sur le fait que cela existe toujours ou pas.
Racism still exists or not.
Les propos de Barack Obama ne laissent personne indifférent. Sans doute le président des États-Unis, pourtant toujours prudent sur les questions raciales, a-t-il touché un point sensible? Tous les candidats à la présidentielle 2016 ont été interrogés sur le sujet et l'embarras est palpable chez les républicains surtout, que ce soit sur le crime de haine perpétré à Charleston, c'est le chef d'inculpation aujourd'hui retenu, ou sur le drapeau confédéré, jugé raciste, qui flotte toujours sur le monument aux morts de cette ville de Caroline du Sud. Les politiques renvoient la décision aux autorités locales. Seul l'ancien candidat Mitt Romney a pris clairement position contre ce symbole des esclavagistes pendant la guerre de sécession.
Suite d'une semaine d'actualité, Israël contre l'ONU, c'est un classique, Chloé Morel. Les autorités israéliennes ont protesté contre le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies qui parle de crimes de guerre de l'armée israélienne et des groupes palestiniens armés lors de la guerre l'été dernier à Gaza. Correspondance de Jérusalem signée Muriel Paradon, mardi.
Sans surprise, Israël estime que les conclusions du rapport de l'ONU sur la guerre à Gaza sont biaisées. La commission des droits de l'homme qui a ordonné l'enquête a toujours été dénigrée par les Israéliens. Emmanuel Narchon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
L'origine de ce rapport, c'est la commission des droits de l'homme. C'est une commission qui est notoirement anti-israélienne. Le mandat de la commission a été établi de telle manière, en fait, à accuser l'État d'Israël.
Israël n'a pas commis de crimes de guerre, affirme Emmanuel Narchon, mais n'aurait fait que se défendre contre des groupes terroristes palestiniens.
Israël s'est défendu, Israël s'est protégé. Nous luttons face à une organisation terroriste qui n'a jamais hésité à utiliser la population palestinienne en tant que bouclier humain et qui a commis des crimes de guerre en tirant de manière indiscriminée contre la population israélienne.
Israël a mené ces derniers temps une vaste campagne médiatique pour contrer le rapport de l'ONU avant même sa sortie. Les autorités israéliennes ont publié leur propre rapport, minimisant le nombre de victimes civiles palestiniennes. Elles affirment que leur opération à Gaza a été légale et légitime.
Chloé Morel, je disais que Israël, l'ONU, c'était une vieille histoire, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, parce que l'histoire de l'ONU se conjugue avec la construction de l'État d'Israël et des conflits entre la Palestine, les Palestiniens et Israël.
Tout à fait, et ce n'est pas nouveau que Israël a des relations tendues avec l'ONU, puisque déjà en 1974, Israël s'était plainte de l'ONU et de l'UNESCO, ce qui avait amené les États-Unis en soutien à se retirer de l'UNESCO une première fois en 1984.
Ah, on se souvient de l'image, enfin les plus oui. âgés se souviennent de l'image de Yasser Arafat à la tribune de l'Assemblée générale.
Oui, puisqu'il avait été admis, l'OLP avait été admise comme observateur à l'UNESCO, et là récemment en 2011, puisque l'UNESCO a admis la Palestine comme État membre officiel, les États-Unis, pour protester, ont retiré leur contribution financière à l'organisation.
Oui, alors dans la mission de l'ONU, il y a le respect des droits de l'homme, c'est englobé dans la charte. Alors ça, c'est un dossier épineux pour l'ONU, parce que sa gestion des droits de l'homme via la Commission et aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme est critiquée, et critiquable d'ailleurs. Hein.
Oui, elle a été critiquée parce
souvent,
que...
Souvent, ce sont les violateurs des droits de l'homme qui s'érigeaient en juge.
Oui, souvent les États étaient dans cette Commission des droits de l'homme, aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme, plutôt pour se protéger de critiques qu'autre chose. Donc elle a été critiquée, mais il n'empêche que l'ONU, on peut dire, a fait un travail très important en matière normative avec le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention sur le droit des enfants en 1989, auquel beaucoup d'États se réfèrent maintenant. Pendant la guerre froide, il y a eu en 1966 le pacte sur les droits civils et politiques qui était promu par les États-Unis. Les États-Unis soutenaient plutôt cette conception-là des droits de l'homme, tandis que l'URSS promouvait plutôt les droits économiques et sociaux. Donc il y a eu la même année un pacte sur les droits économiques et sociaux. Donc chacun des deux grands promouvait sa vision des droits de l'homme. Et l'ONU a essayé de la diffuser.
Et ça continue aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Chacun, plus ou moins, enfin selon les continents, selon les latitudes du monde, a sa conception en fait des droits de l'homme. Hélas, diront certains.
Oui, c'est vrai que certains pays du Sud aujourd'hui essayent de promouvoir leur propre conception des droits de l'homme, parfois en rapport avec une religion, etc. Donc il y a un dilemme, une question, est-ce qu'il faut régionaliser les droits de l'homme ou est-ce qu'ils doivent être universaux? Donc je pense que c'est important qu'on garde une conception universelle des droits de l'homme, comme l'avait fait l'ONU depuis le début.
Je voudrais qu'on revienne sur cette notion de patrimoine mondial qui est important aussi. Il n'y a pas un continent qui n'ait pas aujourd'hui son site classé au patrimoine de l'humanité via l'UNESCO.
Oui. Ça, c'est un grand succès de l'UNESCO, cette liste du patrimoine mondial, patrimoine naturel et culturel mondial, puisqu'il y a les deux types de sites, naturel ou culturel. Ça a été créé en 1972 et depuis, il y a environ 1000 sites classés. Mais il y a quand même un déséquilibre et on voit que cette liste, elle reproduit le déséquilibre nord-sud, puisque la plupart des sites culturels sont en Europe et beaucoup de sites naturels sont en Afrique. Et l'Afrique est très sous-représentée sur la liste du patrimoine. C'est ce qui a amené l'UNESCO ensuite a créé en 2003 la Convention sur le patrimoine immatériel, pas seulement le patrimoine matériel, mais le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les traditions, les rites, les danses, les coutumes et les savoir-faire. Et ça, c'est un peu pour rééquilibrer cette répartition des sites ou des traditions classées, parce que l'Afrique est très riche en traditions, en danses, etc. Donc c'est une tentative pour rééquilibrer.
Alors ce qui est marquant, Chloé Morel, en lisant votre livre, on sort renforcé dans cette conviction. C'est que l'ONU est indispensable aujourd'hui à l'heure de la globalisation, de la mondialisation, même si sur le plan économique, elle a été écartée.
Oui, l'ONU a été beaucoup marginalisée sur le plan économique par la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, et même sur le plan militaire aujourd'hui par l'OTAN, ou encore sur le plan des grandes décisions à prendre dans la gouvernance mondiale par le G7, le G20. Donc elle a ce problème, il faut qu'elle se réaffirme, qu'elle parvienne à se réaffirmer comme l'instance la plus légitime, car la plus démocratique, puisqu'à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, un État a une voix, contrairement aux institutions financières internationales où c'est chaque État, en fonction de sa richesse, qui a un certain nombre de votes. Donc c'est important que l'ONU parvienne à se réaffirmer.
Même s'il y a toujours, Chloé, 5 États plus égaux que d'autres.
Oui, avec ce système des membres permanents du Conseil de sécurité, qui est un héritage des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et qui n'apparaît plus justifié du tout, plus le temps passe. Et on pourrait imaginer plus de démocratie dans les instances de l'ONU, en mettant fin peut-être à ce système, en trouvant un autre qui fasse plus de place aux pays du Sud, aux pays émergents, à tous les pays, et aussi peut-être en démocratisant encore plus l'Assemblée générale, en faisant que peut-être les représentants soient élus.
Chloé Morel. Nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, où il sera peut-être question de l'ONU et sans doute, hélas, d'attentats. Et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour poursuivre notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Nous parlons de l'ONU à l'occasion des 70 ans de la signature de la charte de l'organisation à San Francisco. Notre invitée Chloé Morel, elle est historienne spécialiste de l'histoire des Nations Unies et vient d'écrire l'histoire des idées des Nations Unies chez l'Harmattan. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique, mais d'abord revenons sur la grève des taxis jeudi. Ils protestent contre la concurrence déloyale d'une société à qui l'on fait beaucoup de publicité ces derniers jours, Uber. La journée a été chaude, tendue, violente. Alice Posicki.
C'est ce que les chauffeurs réclamaient, la suppression de l'application Uber Pop. Arrêté en pleine voie, Axel Bellencontre est venu dénoncer la multiplication des taxis clandestins.
Tous les jours à la gare de Lyon, par exemple, dans les aérogares à Paris, toute la clientèle nous le dit, toute la clientèle ne comprend pas que c'est le seul aéroport au monde où les gens se font alpaguer, racoler à la sortie des terminaux pour prendre des taxis clandestins. La police est au courant, la police voit faire, mais la police ne fait rien.
Des pratiques quotidiennes qui s'ajoutent au succès de l'application Uber Pop. À chaque fin de mois, ce chauffeur parisien observe une nette différence.
Depuis l'arrivée des VTC, maintenant Uber Pop, j'en parle même pas, toutes ces applications qui permettent à des particuliers de transporter d'autres particuliers, il y a une baisse de chiffre d'affaires, je pense, de 40%, facile. C'est plus notre métier qu'on défend, c'est nos vies. On défend nos vies maintenant.
Dans la file de voitures arrêtées, une dizaine de chauffeurs s'approchent d'une berline qui leur semble être un véhicule de tourisme avec chauffeur. Ils la renversent sur le côté. D'autres brisent les vitres d'un van bloqué dans la circulation. Quelques violences qui ont poussé le ministre de l'Intérieur à lancer un appel au calme aux chauffeurs mobilisés.
Et un salut aux chauffeurs de taxi qui ont le bon goût d'écouter RFI.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Sophie qui nous écoute en Normandie, à Dominique, au Bénin, Jen, à Douala. Bonjour à Issouf, à Koudougou, à Jean-Jacques et à Israël Moussa qui considère que l'espionnage est un mal nécessaire.
RFI.
Alors l'actualité française, c'est évidemment l'attentat d'hier à une tête décapitée retrouvée près de drapeaux islamistes. Au moins 2 personnes blessées dans une explosion. L'attentat a été commis dans un site de gaz industriel en Isère, près de Lyon. On vous en parle dans nos journaux. C'est aussi un autre attentat, cette fois sur le continent africain, en Tunisie, à Sousse. Un attentat extrêmement sanglant, là aussi, on vous en parle dans nos journaux. Nous allons continuer donc à parler de l'ONU avec vous. Il faut noter, puisque nous sommes dans la partie française de cette émission, Chloé Morel, que la France est en quelque sorte un bon élève de l'ONU.
Oui, la France peut être considérée...
A toujours comme... joué, sauf peut-être pendant la période de l'Algérie, des Tunisies, oui. Justement l'indépendance, toujours joué le jeu de l'ONU.
Oui, la France a ratifié beaucoup de textes de l'ONU, comme la Convention sur les droits de l'enfant, etc., contrairement aux États-Unis qui ne l'ont pas ratifié, puisque chez eux, l'emprisonnement d'enfants est autorisé, donc les États-Unis n'ont pas ratifié celle-là. La France a ratifié aussi la Convention sur la diversité culturelle, c'est aussi grâce à la France que cette convention novatrice a été adopté.
Alors, il faut rappeler en 2 mots ce qu'est cette charte
sur la
diversité culturelle.
Sur la diversité culturelle, c'est un peu la tentative de faire prévaloir l'idée de l'exception culturelle, c'est-à-dire l'idée que la culture, ce n'est pas seulement une marchandise, c'est quelque chose de plus précieux auquel tout le monde a droit, et donc il ne faut pas seulement faire jouer la logique marchande en matière de culture, mais favoriser les expressions culturelles venues de peuples minoritaires ou donner des subventions, etc. Et les États-Unis sont tout à fait contre cette conception de la culture. Ils veulent que ce soit les règles de l'OMC qui prévalent en matière culturelle. Donc les États-Unis ont fait tout un travail de sape, en fait, pour que la convention ne soit pas adoptée. Elle a quand même été adoptée grâce à la France et au Canada en 2005 et entrée en vigueur en 2007, notamment grâce à la France.
Et rappelons, puisque c'est votre spécialité aussi, que Paris abrite le siège de l'UNESCO. Donc c'est symbolique pour la France.
Oui, c'est symbolique. La France abrite le siège de l'UNESCO, donc à Paris. Même si l'UNESCO a un problème de visibilité, il n'y a pas assez d'échanges entre la population parisienne, française et les activités qui se passent à l'UNESCO. C'est quand même important que la France France ait ce siège. Et la France a eu l'UNESCO a eu un directeur général français, René Maheu, dans les années 60-70, qui a mené l'UNESCO un peu à son âge d'or, puisqu'à cette époque-là, l'UNESCO était vraiment, avait un grand rayonnement avec le magazine Le Courrier de l'UNESCO, qui était très lu. Les clubs UNESCO, dans les collèges, les lycées, beaucoup de prestige avec le sauvetage d'Abou Simbel dans ces années-là. Donc c'était une période vraiment positive pour l'UNESCO.
Alors l'ONU joue, et ça pour vous c'est intéressant, ça doit vous sensibiliser, comme on dit aujourd'hui, joue un rôle important dans l'éducation aussi, l'éducation pour tous.
Oui, l'éducation pour tous, c'est un slogan qui a été promu par l'UNESCO en 1990, et c'est ce qu'elle vise à obtenir dans le monde entier. Déjà dans les années 60, l'UNESCO faisait beaucoup d'alphabétisation dans le tiers-monde, mais en fait il y a eu beaucoup de conceptions différentes de l'éducation au fil des années à l'UNESCO. Il y avait au début, dans les années 47, l'éducation de base pour les peuples du Sud, les peuples qu'on appelait alors sous-développés, c'était un condensé, un résumé d'éducation occidentale. Mais finalement, cette conception a été abandonnée. On a ensuite adopté la conception de l'éducation communautaire, l'idée que l'individu est inscrit dans sa communauté, il faut lui apprendre ce dont il a besoin pour fonctionner dans sa communauté. Ensuite, dans les années 60, c'était l'alphabétisation fonctionnelle. Il fallait alphabétiser quelqu'un dans la mesure où c'était important pour son travail, pour son emploi. Et aujourd'hui, c'est l'éducation pour tous, donc une conception humaniste. Mais attention, il y a un risque, c'est que l'UNESCO aujourd'hui fait beaucoup de partenariats avec le secteur privé et notamment avec des écoles privées. Je pense que ça serait important qu'elle s'attache surtout à renforcer le service public d'éducation pour un caractère plus démocratique.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons, Chloé Morel, pour le Rwanda, après l'arrestation à Londres samedi dernier du chef des services de renseignement du pays en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis en 2008 par la justice espagnole. On l'a appris lundi. Il a été remis en liberté conditionnelle jeudi, Londres ce jour-là. Muriel Delcroix.
Emmanuel Garanzi Karake est libre. Le soulagement était visible sur le visage de Buzigi Johnston à la sortie du tribunal. Le ministre de la Justice rwandais était venu en personne assister à cette première audience. Les conditions de remise en liberté sont strictes, couvre-feu, bracelet électronique et pointage à un commissariat chaque jour. Mais le général n'est plus en prison et pour Buzigi Johnston, c'est symboliquement important.
Je suis très heureux. C'est probablement le début d'un long processus pour montrer que ces actes d'accusation espagnole sont illégaux et illégitime. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Nous n'avons pas besoin de pression pour honorer nos obligations internationales. Quant à nos relations avec le Royaume-Uni, je veux croire qu'elles vont au-delà de cet incident et je préfère en rester là.
Néanmoins, l'affaire est loin d'être terminée. Le juge britannique a prévenu les différentes parties que la procédure serait longue. Certains rescapés rwandais, victimes de crimes perpétrés par le Front patriotique rwandais, qui sont depuis venus vivre à Londres, veulent d'ailleurs, eux, voir ses responsables jugés.
Ça fait longtemps que nous attendons la justice, que la justice soit faite. C'est une bonne signe que donc tous les deux côtés, donc des Hutus et des Tutsis, les gens qui ont commis des crimes, donc soient vraiment jugés.
Une nouvelle audience d'extradition est prévue les 29 et 30 octobre prochains.
Jeudi toujours, mais à Kigali, cette fois, le président Paul Kagame s'est exprimé au Parlement et il a dénoncé ce qu'il a appelé l'Occident, correspondance de Stéphanie Aglietti.
C'est un Paul Kagame très remonté qui s'est exprimé pendant près d'une heure, essentiellement en anglais, face à un parterre d'officiels et de diplomates. Le président rwandais a accusé le Royaume-Uni d'avoir arrêté son chef des renseignements, je cite, comme un vulgaire voleur. Une attitude illustrant selon lui l'arrogance des pays occidentaux.
D'abord c'était la France, puis l'Espagne et maintenant c'est le Royaume-Uni. Je ne sais pas quel sera le prochain sur la liste de ces pays qui, semble-t-il, veulent incommoder, déstabiliser et montrer leur mépris absolu pour le Rwanda et l'Afrique.
Paul Kagame a aussi ironisé, expliquant que les autorités britanniques avaient dû confondre le général Karake avec un immigrant illégal. Ils nous traitent tous comme ils traitent les immigrants illégaux, a-t-il fustigé. Il a également accusé les pays occidentaux dont, je cite, les capitales sont remplies de génocidaires, de s'en prendre à ceux qui ont mis fin au massacre.
Depuis quand sommes-nous devenus des tueurs? Ces mêmes pays ont tué plus de gens que les Africains n'en ont jamais tué. Comment pouvons-nous donner nos vies pour sauver notre pays et notre peuple et finalement devenir des tueurs?
Nous n'avons pas le pouvoir de l'argent, le pouvoir militaire ou technologique des pays occidentaux, a reconnu Paul Kagame, mais nous avons le pouvoir de protester.
Avec vous, Lorraine Bess, d'autres informations africaines?
Au moins 42 personnes ont été tuées par Boko Haram lundi et mardi au Nigeria. Quelques 30 islamistes sont arrivés dans deux villages en pleine nuit où ils ont massacré la population. Au Niger, mercredi, 15 combattants de Boko Haram ont été tués par les forces nigériennes. En Guinée, c'est une alliance politique surprenante qui a été annoncée cette semaine. Le leader de l'UFDG, Sélou d'Alain Diallo, s'est allié avec le leader des FPDD, Moussa Dadis Camara, dans l'optique de la présidentielle en octobre 2015. Un rapprochement inattendu dans la mesure où les soldats de Camara avaient violemment réprimé en 2009 une manifestation de l'opposition et notamment les militants de l'UFDG.
Direction le Burkina Faso maintenant, Lorraine.
Le gouvernement de transition a adopté un décret qui autorise le service militaire volontaire pour les jeunes. Celui-ci a été adopté après le constat d'un certain relâchement des valeurs morales et civiques selon les autorités. Le service militaire volontaire avait été supprimé en 1990 et remplacé par une formation civique, patriotique et pédagogique. Enfin, le gouvernement du Zimbabwe peine à payer le personnel de ses ambassades dans le monde. Il doit actuellement 10 millions de dollars de salaire. Au Zimbabwe, 80% du budget de l'État est consacré au paiement des fonctionnaires. Le pays reste embourbé dans sa mauvaise situation économique. La croissance reste faible et le chômage élevé.
RFI. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Chloé Morel, qui a écrit « Histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions », un livre publié chez l'Armatan. On parlait de Chloé, du Rwanda il y a un instant, c'est le grand échec de l'ONU. Enfin, c'est pas l'ONU qui a échoué, ce sont les grandes puissances du Conseil de sécurité qui n'ont pas voulu que l'ONU intervienne pour empêcher ce génocide,
oui,
en 94.
Tout à fait, c'est un échec grave de l'ONU. Et pour réagir face à cet échec, l'ONU a développé des nouvelles idées. Il y a eu d'abord l'idée de la sécurité humaine qu'elle a imposée justement à la suite de cet échec. C'est l'idée qu'il y a 7 dimensions de sécurité, économique, alimentaire, sanitaire. Il faut protéger l'individu dans toutes ces dimensions-là. Et donc c'est une notion qui est centrée sur l'être humain, alors que le concept de sécurité traditionnel était centré sur les États. Donc c'est l'idée de prendre en compte la souffrance des individus et d'essayer d'y remédier. Et quelques années plus tard, l'UNESCO a adopté le concept de responsabilité de protéger pour essayer de prévenir des nouveaux massacres. C'est une notion qui signifie que les États et la communauté internationale ont le devoir de protéger les populations d'un pays si cet État-là ne n'est pas capable ou ne veut pas le faire. Donc c'est une notion intéressante, mais elle est controversée car il y a le risque pour certains pays pointent l'idée qu'il y a le risque d'enfreindre la souveraineté étatique.
Alors une grande partie, puisque nous sommes sur le continent africain, Chloé Morel, une grande partie de l'activité de l'ONU aujourd'hui est tournée vers l'Afrique. Notamment les opérations de maintien de la paix.
Oui, beaucoup d'opérations de maintien de la paix ont lieu en Afrique. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure du patrimoine, l'UNESCO a mis en place une liste rouge du patrimoine africain en danger, parce qu'il y a beaucoup de pillages d'œuvres d'art, d'objets d'art africains, et l'UNESCO veut y remédier pour permettre au peuple africain de garder sa culture. Déjà dans les années 70, le directeur général africain de l'UNESCO, Amadou Matarembo, sénégalais, avait appelé à une restitution des objets et des œuvres d'art africaines qui avaient été pillées par les colonisateurs et qui étaient restées depuis dans les musées occidentaux. C'est ce qui s'est fait récemment, puisque l'obélisque d'Aksum en Éthiopie a été restitué par l'Italie à l'Éthiopie récemment, en 2005. Donc ça, c'est un geste fort.
Et sur le plan politique, il faut préciser que le Conseil de sécurité, on y revient, a estimé que l'une épidémie comme Ebola, en septembre dernier, est une menace contre la paix. Ça, c'est un tournant décisif dans l'histoire du Conseil de sécurité, ce qui n'en connaissait jusqu'ici que les États, en fait, à part la menace que constitue le terrorisme.
Oui, maintenant, il y a de nouvelles menaces qui ont la caractéristique d'être transnationales. Les problèmes de santé, aujourd'hui, sont transnationaux. C'est pour ça que l'ONU et l'OMS ont développé le concept de santé globale. Aujourd'hui, la santé ne se conçoit plus à l'échelle d'un État. On disait avant la santé publique, la santé dans un État. Mmh. Aujourd'hui, on parle de santé globale, car les problèmes de santé sont transnationaux, du fait des migrations, des déplacements très importants, et qui doivent être réglés à l'échelle mondiale. Ça ne peut pas être seulement réglé par un État. L'OMS a lancé ce concept pour résoudre ces problèmes, comme Ebola, où il y avait eu auparavant d'autres épidémies que l'OMS a pris en compte.
Sept jours en Afrique. Vous écoutez RFI et vous avez mille fois raison. Nous continuons notre voyage africain et cette fois nous partons pour le Mali où l'espoir du retour à la paix est réel depuis la signature de l'accord par la coordination des mouvements de l'Azawad il y a une semaine. Accord de paix s'entend Bamako David Bachet lundi.
Gouvernement, groupes armés loyalistes et depuis samedi groupes rebelles, tous ont signé l'accord de paix pour le nord du Mali. Et tous se sont donc engagés une nouvelle fois à faire taire les armes. Pour Radia Achouri, porte-parole de la MINUSMA, le nouveau mandat de la mission onusienne doit lui permettre de veiller au respect de cet engagement.
Le secrétaire général propose au Conseil de sécurité de doter la MINUSMA de 40 observateurs qui s'ajouteraient à l'effectif militaire que nous avons, qui auront pour tâche justement d'observer très étroitement la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu et de la situation sécuritaire et de faire rapport bien entendu à la MINUSMA, laquelle fera rapport au Conseil de sécurité. Et il fait mention spécifique d'établir des sanctions contre la partie qui serait en violation des accords de cessez-le-feu.
Interdiction de voyage, gel des avoirs financiers, telles pourraient être les sanctions prises par les Nations Unies contre ceux qui décideraient de reprendre les armes et qui deviendraient aussitôt, selon les termes employés par la médiation, des ennemis de la paix et donc des ennemis des forces internationales présentes sur le terrain.
Suite d'une semaine d'actualité, partons pour l'Afrique du Sud, où la justice recommande des poursuites contre les responsables de la fuite d'Omar El-Béchir à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Nous en parlions samedi dernier. Correspondance mercredi d'Alexandra Branjon à Johannesburg.
La haute cour de Pretoria est catégorique. Le gouvernement sud-africain a violé ses engagements internationaux en refusant d'arrêter Omar El-Béchir. Pendant plus d'une heure, le juge a expliqué point par point le jugement de la cour. Celle-ci estime que Pretoria a également violé sa propre constitution en laissant le président soudanais repartir. Pour le juge Dustin Mlambo, le gouvernement n'a aucune excuse.
Comment est-il possible que le président El-Béchir ainsi que tout son entourage puisse voyager du centre de Johannesburg jusqu'à une base militaire sans que personne ne soit au courant? Et comment est-il possible que l'avion du président soudanais puisse décoller de cette base militaire sans que personne ne puisse confirmer si Omar El-Béchir est dans l'avion?
Le juge a lancé un avertissement. Refuser d'obéir à une décision de justice est une menace à la démocratie. Il a appelé à des poursuites judiciaires.
Nous l'avons déjà dit, le départ d'Omar El-Béchir de ce pays en toute connaissance de cause d'une interdiction de sortie de territoire de la Cour constitue une infraction. Pour cette raison, nous invitons le procureur général à envisager des poursuites judiciaires.
Des têtes vont-elles tomber? Le procureur de la République est à son poste depuis moins d'une semaine. Il a été nommé par le chef de l'État 4 jours après la fuite d'Omar El-Béchir.
Suite d'une semaine d'actualité, terminons notre voyage au Tchad après l'expulsion mardi de notre envoyé spécial Laurent Corot, Céline Pellerin.
Notre envoyé spécial Laurent Corot est arrivé dans la capitale tchadienne jeudi soir. Dès le lendemain matin, il s'est rendu au secrétariat général de la communication pour accomplir les formalités d'accréditation. Sur place, assure-t-il, les responsables du ministère l'autorisent verbalement à commencer à travailler, comme c'est également le cas pour plusieurs journalistes. Laurent Corot a donc entamé ses reportages pendant 4 jours. J'ai pu travailler normalement, précise-t-il, jusqu'à mardi soir. Le ministre tchadien de la communication, Hassan Silabakari, explique que du point de vue de ces services, l'absence écrite d'accréditation justifie cette procédure d'expulsion.
M. Corot, bien qu'entré légalement au Tchad, n'avait pas encore obtenu son accréditation et c'est la raison pour laquelle les services de sécurité l'ont expulsé. Il n'y a pas au Tchad une autorisation verbale pour avoir une accréditation.
Côté français, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Stéphane Le Foll, condamne l'utilisation de la violence envers la presse.
Un journaliste doit pouvoir faire son métier, il doit être respecté. N'acceptons pas les violences contre les journalistes. Alors les expulsions, je ne sais pas dans quelles conditions tout ça s'est fait, mais je vous dis, sur les violences qui ont été faites, je les condamne de manière très claire. Je le fais au nom du gouvernement.
Le ministère français des Affaires étrangères a insisté, rappelant que la France est attachée au respect de la liberté de la presse et au libre exercice du métier de journaliste.
Suite de ce voyage dans l'actualité de la semaine, j'ajoute, Chloé Morel, puisque nous parlons de l'ONU cette semaine, que Ban Ki-moon a appelé hier au report des élections au Burundi, ce qui m'incite à vous poser une question sur le rôle des secrétaires généraux. Il y en a eu de, comme on dit aujourd'hui, de charismatiques. Je pense notamment à Kofi Annan.
Il y en a eu plusieurs qui ont été charismatiques, comme Kofi Annan, donc... dans les années 90-2000, qui a beaucoup fait pour rendre plus de visibilité à l'ONU. Et ça, c'était important.
Il y a eu dans le passé. Il était presque devenu une star de la diplomatie, Kofi Annan.
C'est vrai. Après avoir fait toute sa carrière dans les arcanes de l'ONU, qu'il connaissait parfaitement, il a accédé à ce plus haut poste et Il a permis donc de rendre un rayonnement plus important à l'ONU, mais en même temps, il a aussi fait une action qui était le pacte mondial, Global Compact en anglais. C'est l'idée de donner plus de pouvoir aux entreprises en fait privées à l'intérieur de l'ONU, des partenaires presque à l'égal des États. Et ça, c'est une orientation qu'on peut quand même qualifier de dangereuse, puisque ça nuit au caractère démocratique de l'ONU de donner tant de pouvoir à des entreprises privées au sein de l'ONU. Donc c'est un projet qui a été contesté, cette orientation qu'il a impulsée.
Alors il faut préciser, le redire aussi, que l'ONU est engagée dans la lutte contre le terrorisme, puisque c'est dans l'actualité de cette semaine, attentat en France hier, attentat en Tunisie également hier. Depuis 2001, depuis les attentats du 11 septembre, l'ONU est engagé et considère que être victime d'une attaque terroriste, c'est être en légitime défense.
Tout à fait. L'ONU essaye d'agir contre le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est une menace qui est transnationale, qui n'est pas située que dans un État, qui déborde des États, comme les organisations Al-Qaïda, Daesh, qui sont transnationales. Et donc, l'ONU est bien placée en tant qu'organisation mondiale pour agir sur ce sujet. Et c'est ce qu'elle s'efforce de faire.
Alors, il y a un chapitre de votre livre, de l'histoire des Nations Unies, qui m'a toujours intrigué, c'est quand les Nations Unies ont essayé, c'était pendant la guerre froide, l'antagonisme, pour ne pas dire plus Est-Ouest, l'époque du communisme, ont essayé de créer ce qu'ils ont appelé, les Nations Unies, un nouvel ordre économique international. Bon, aujourd'hui, c'est totalement obsolète, quoique, mais cette idée de nouvel ordre économique est, il me semble, de plus en plus intéressant.
C'est une idée qui a été promue d'abord par les pays du Sud eux-mêmes, notamment par le président algérien Ouari Boumediene en 73, puis en 74 dans une assemblée générale extraordinaire de l'ONU dominée par les pays du Sud. C'était l'idée qu'il fallait...
Alors, il faut préciser, je vous coupe Chloé Morel deux secondes, c'est que l'assemblée générale est la voix des pays du Sud. Plus de 50 pays africains, et plus les Asiatiques, les Latino-Américains qui représentent la majorité en fait des États.
On les a appelés les pays du G77 puisqu'ils formaient au début 77 pays et ils étaient les plus nombreux mais les moins riches et ils ont exigé qu'il y ait des relations commerciales et des diplomatiques et autres plus équitables entre les pays du Nord et du Sud et notamment dans le commerce que les pays du Nord cessent d'acheter à très bas prix les matières premières des pays du Sud et à leur vendre des matières transformées, manufacturées chères. Donc ça c'est une volonté, le nouvel ordre économique international qui a été porté par les pays du Sud, mais pas seulement dans le domaine du commerce des matières premières, mais aussi dans le domaine de l'information, puisqu'il y a eu parallèlement, un peu plus tard, en 1980, le NOMIC, la volonté d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication.
Qui n'avait pas plu à l'époque aux États-Unis, d'ailleurs.
Qui n'avait pas plu aux États-Unis. Cette aspiration au NOMIC a été portée à l'UNESCO autour de 1980 par des pays du Sud. C'est l'idée qu'il faut permettre au peuple du Sud de se réapproprier l'information, le fait d'écouter l'information, d'avoir accès à différents médias et aussi de produire eux-mêmes de l'information. Donc c'est quelque chose qui n'a pas abouti mais qui reste encore un thème intéressant et encore d'actualité aujourd'hui.
Alors Chloé Morel, question que nous posent tous nos auditeurs aujourd'hui, hier et qu'ils poseront demain. Pourquoi l'ONU n'arrive pas à se réformer ?
Alors, la réforme du Conseil de sécurité, par
notamment,
exemple,
oui.
Voilà, est difficile parce qu'il y a des blocages avec ce droit de veto.
Donc, oui, parce qu'il faut préciser que tout changement à l'ONU, toute réforme doit avoir l'aval des 5 pays permanents.
Oui, oui, oui. Il faut que chaque réforme qui soit adoptée ait l'aval des 5 membres permanents et aussi soit votée par l'Assemblée générale. Donc, c'est très difficile puisque l'ONU, elle est la voix de tous les pays membres et c'est difficile de se mettre d'accord sur un programme de réforme. Donc, c'est pour ça que cette réforme qui avait été tant prônée par Kofi Annan, par exemple, dès les années 90 et après même, n'a toujours pas abouti aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a l'espoir un jour de la voir se réformer
Oui, je pense qu'il y a l'espoir. Elle a déjà accompli beaucoup d'évolutions positives au fil du temps, par exemple dans le domaine des droits de l'homme, avec la création de ce nouveau Conseil des droits de l'homme. Il y a des instances qui se créent, des nouvelles structures, et je pense qu'il faut garder l'espoir en une amélioration possible des Nations Unies.
Vous, votre voix est assez originale, je le répète, Chloé Morel, j'ai commencé l'émission en le soulignant et je la termine en le soulignant également, c'est que vous êtes assez, optimiste quant à l'avenir de l'ONU et quant à son rôle aussi, quant à sa mission.
Voilà.
Alors qu'il est de bon ton, encore une fois, de la critiquer.
Oui, mais je pense que comme c'est l'instance la plus légitime, car la plus démocratique, il faut la soutenir et la renforcer, notamment faire en sorte que ces conventions aient plus de force contraignante, forte, parce que les textes, les directives, les règlements de l'OMC ont une force contraignante. Alors pourquoi ceux de l'ONU, qui sont plus légitimes, n'auraient pas de force contraignante? Donc il faudrait déjà qu'il y ait cette évolution. Il faudrait aussi que ces missions de maintien de la paix aient plus de force pour être plus efficaces. Et il faudrait aussi poursuivre les actions progressistes dans un sens humaniste, ce qui est en partie le cas. Et il faut malheureusement compter aussi avec les blocages et les difficultés qu'il faut résoudre, comme souvent une obstruction menée par les États-Unis qui ont empêché la ratification ou qui ont refusé de ratifier de nombreux textes importants.
Et quand on lit la Charte des Nations Unies, qui est à la fois le texte de fonctionnement de l'organisation et surtout le texte qui exprime des idéaux, on se dit que c'est une sorte de catéchisme laïque,
oui,
tellement les idéaux sont élevés.
C'est vrai, c'est un texte qui a des idéaux très élevés, et de même que les autres textes qui ont suivi. Et c'est important de garder en tête ces aspirations et de ne pas y renoncer, même dans le monde actuel où, qui est dominé par le libéralisme. C'est important de garder en tête ces aspirations progressistes et humanistes.
Merci Chloé Morel. Il faut lire votre livre qui s'intitule donc « Histoire des idées des Nations Unies ». Il est publié chez L'Harmattan. Merci. Rendez-vous aussi sur le site de la radio, à la page de l'émission, ainsi qu'à la page Une Semaine d'Actu de Facebook pour prolonger le débat que nous avons commencé à avoir dans cette émission. Une Semaine d'Actualité réalisée par Sophie Janin, une émission à podcaster, tout comme vous pouvez podcaster le magazine Idées. Je vous retrouve en effet demain avec Alexandra Léniel-Lavastine, historienne des idées, qui vient d'écrire La pensée égarée, essai sur les penchants suicidaires de l'Europe. Demain dimanche, Idées, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.